This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture Prohibée attaque Gérardmer. Et oui, aujourd'hui, deuxième jour en direct du 19e Festival International du Film Fantastique de Gérardmer. Alors Culture Prohibée, on vous rappelle, hein, c'est l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité de la culture panette du ciboulot et qui donc exceptionnellement pendant toute la durée du festival est donc quotidienne. Et on vous rappelle que Culture Prohibée est animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et que surtout, toutes les infos sur notre émission sont disponibles sur le blog culture-prohibée.blogspot.com. Et aujourd'hui, toujours grâce aux bons soins de Public System, que nous remercions, nous avons pu voir quelques films, trois films pour être exact, dont nous allons débattre dans cette émission. À commencer par un film danois qui a inspiré mon camarade ici présent. Salut Pierrick.
Salut Jérôme.
Donc un film danois qui s'appelle Beast. Alors Beast, je vais situer, puis je vais laisser un peu l'ami Pierrick vous en parler. Je vais situer un peu le décor, hein. C'est fait par Christopher Beau, qui pour son premier film avait eu la caméra d'or au Festival du film de Cannes en 2003, qui a après enchaîné deux autres films avec pas mal de récompenses. Et puis il arrive avec Beast, donc hein, cette histoire d'amour, enfin de triangle amoureux qui tourne au vinaigre. Et Pierrick, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors j'ai trouvé ça consternant de A à Z. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien pour sauver ce film qui m'a paru long, extrêmement long. J'aurais bien aimé réussir à dormir pour faire passer un peu plus vite le temps, mais les sièges ne sont pas très confortables, puis on était quand même le matin. Tout est assez raté. Les dialogues qui sont vraiment très mauvais, qui en plus soulignent l'action. La musique, pareil, très
agressive, très mal utilisée en tout cas.
Ouais, voilà, les acteurs qui jouent mal, enfin surtout.
Surtout le personnage principal.
C'est quand même gênant. Ouais. En fait, dès le départ, les dialogues, on rigole en se disant non, c'est pas possible d'écrire des dialogues aussi mauvais. Ensuite, à un moment, il se regarde devant la glace, il est torse-poil, il pousse une espèce d'hurlement, donc là, on est censé sans doute avoir peur, du malaise ou je sais pas quoi, ça fait juste rire. Donc déjà, d'emblée, c'est assez mal parti pour ce film avec un propos très décousu, pas de scénario, la réalisation pareil c'est assez mal réalisé, il y a des plans complètement inutiles sur des tasses de café, des statues sous la neige, enfin qui n'ont rien à voir avec le film, enfin voilà, non c'était vraiment pas...
Je vais un peu rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que le film débute de manière plutôt correcte avec deux amoureux qui vont faire l'acquisition d'un bel appartement, d'un immense appartement avec une terrasse, immense elle aussi, et puis entre deux il y a un générique très stylisé, et puis après il commence à y avoir effectivement dans le couple quelque chose qui se fissure, qui se casse, quoi. La belle mécanique du couple se casse parce que lui est assez possessif. Il le dit d'ailleurs, hein, il veut la posséder totalement, il veut qu'elle soit en lui. Et puis en fait, effectivement, l'acteur principal cabotine à mort, il est complètement ridicule. Ce que je reprochais surtout au film, c'est la photographie est pas vilaine, mais la réalisation est ultra paresseuse. C'est une succession de gros plans. Moi, je vais pas au cinéma pour voir des films cadrant en gros plans. Je comprends à la télé parce qu'il y a pas de moyens, donc on cadre serré. Mais le cinéma, c'est sur grand écran, c'est fait pour voir des choses qui ont de l'ampleur, quoi, des beaux plans du cinéma, quoi, tout simplement. Et puis, pour rebondir un peu sur les plans assez vains dont tu parlais. Il y a un plan sur un lustre à un moment qui est complètement ridicule, qui est juste avant une scène dans un resto, qui elle aussi est très mal cadrée, puisque les deux personnages se parlent, on voit pas leur tête. Bon, je suppose que c'est des choix de mise en scène, mais moi j'ai pas trop compris où ils voulaient en venir. Chaque discussion, et il y a énormément de dialogues dans le film, est filmé en champ contre champ. C'est d'une fainéantise dans la réalisation qui est assez usante. Au bout du compte, et puis je suis assez d'accord avec toi, je vais pas répéter tout ce que t'as dit, je voulais juste dire que toi tu as parlé du moment où il s'extasie devant la glace, c'est vraiment bête parce que ça fait suite à une scène très malsaine, très étrange, de jeu sexuel très sadique avec une lame de couteau, et c'est un moment où le film bascule et en plus où il y a vraiment en fait cette idée de rapport étrange qu'il y a entre deux, quoi, et puis c'est tout de suite désamorcé par ce type grassouillé qui va se foutre devant la devant sa glace et imiter Tarzan. Enfin bon, bref. Non, enfin franchement, c'est disons que pour le premier film en compétition, donc Beast, c'est pas un film qui a beaucoup plu, donc.
Ah, d'autant plus pour venir quand même à la scène que tu disais, mais quand même quelque chose qui paraît en plus pas très cohérent, c'est cette scène où elle lui demande de lui entailler le sein. Et alors, juste quelques scènes avant, elle s'est coupée le pouce, il lui commence à lui sucer le sang sur le pouce et tout. Et alors là, elle crie au scandale et tout, donc on comprend pas très bien. C'est pas très cohérent tout ça sur la psychologie des personnages, on voit vraiment pas où il veut en venir.
Bah non,
ce film. Je sais pas si lui-même le sait d'ailleurs.
Bah, ce film restera une énigme. Une énigme pour nous, enfin bon voilà, Beast, bof. Ensuite, le film de l'après-midi, c'était The Awakening, donc l'éveil, alors étrangement traduit en français par La Maison des Ombres. Bah, effectivement, c'est un peu étrange, mais bon, les titres français sont toujours un peu étranges. C'est un film réalisé par Nick Murphy, en fait, qui avait déjà réalisé une fiction pour la BBC, qui s'appelait Tchernobyl. Et puis il a réalisé d'autres petits dramas, hein, mais je crois que en fait ça doit être son premier long métrage pour le cinéma. C'est une production BBC aussi et Studio Canal d'ailleurs. Et c'est une maison, enfin c'est une histoire de maison hantée un peu classique. C'est un film très classique en fait globalement, avec cette femme. On est en 1921, on est donc directement après la Grande Guerre. Et on a cette ravissante, c'est Rebecca Hall, hein, qui explose dans le film d'ailleurs, parce qu'elle porte vraiment le film sur ses épaules, et elle est vraiment excellente, quoi. C'est une redécouverte après l'avoir déjà découverte dans The Town de Ben Affleck, où elle était déjà très bien, mais là, c'est vraiment le personnage principal du film, et le film tourne vraiment autour d'elle. Et donc c'est une femme un peu moderne, qui clope, qui porte des pantalons, on est quand même en 1921, qui est athée. Et donc en fait elle passe son temps, visiblement, à ce qu'on peut en comprendre au début du film, elle passe son temps à prouver en fait le charlatanisme de tous ceux qui organisent de nombreuses séances de spiritisme, parce qu'après guerre c'est vrai qu'il était c'était un loisir très prisé et qui était payé très cher. On organisait des séances de spiritisme pour retrouver en fait l'âme des proches défunts qui étaient partis au combat et qui n'en étaient jamais revenus, et dont parfois la dépouille ne revenait pas en fait. Donc et c'était un business assez lucratif, et elle est, bon, c'est une écrivaine comme on dit maintenant, ce personnage donc très fort, de femme forte, très cartésienne, très qui est vraiment moderne, quoi, qui est vraiment un personnage très très attachant. Et au milieu de cette société un peu misogyne, un peu macho, enfin bon, après-guerre, quoi, enfin on est quand même en 1921, elle est contactée pour aller dans un bahut, hein, dans une école victorienne, très belle, enfin bon, voilà, dans une magnifique bâtisse, parce qu'on la soupçonne en fait d'être hantée. Et voilà quoi, donc elle va dans cette école dans laquelle officie d'ailleurs l'acteur qui a interprété McNulty et qui joue aussi dans Centurion, à savoir Dominic West, qui se révèle lui aussi très bien dans ce rôle de directeur d'école, enfin très très, très intéressant. Et puis voilà, donc elle arrive dans cette école et puis elle commence à démonter le truc, mais en fait elle s'aperçoit que la maison est peut-être réellement hantée. Et c'est là que le film débute. Et puis un film fantastique très classique, qui révolutionne pas le genre des films de maison hantée, mais qui se tient bien quand même, d'une bonne tenue, plastiquement excellent, très très beau, et avec des plans d'une symétrie parfaite, avec une très belle photo. Bah, j'insiste vraiment sur la réalisation. En plus, bon, bah, je pense qu'on a eu un effet un peu comme le type qui a un méga jet lag après un voyage d'avion interminable. C'est-à-dire que ça nous a tellement fait plaisir de voir une réalisation très soignée après avoir vu la réalisation très feignante du premier film, que du coup, je pense qu'on a peut-être un peu tendance à surestimer le film. Mais néanmoins, je trouve que le film est vraiment d'une excellente facture, que ce portrait de femme est très très intéressant. Moi, bon, je dirais juste que le film est longué à se finir, hein, il dure presque 1h50, mais après je trouve qu'il y a quand même plein d'idées intéressantes, en particulier cette femme forte qui hésite pas, on inverse les rôles, qui hésite pas à mater à travers un trou de serrure un mec en train de prendre sa douche à poil, enfin en train de prendre son bain à poil et tout. Ça inverse les rôles, c'est plutôt rigolo, parce que c'est pas trop dans ce sens là que l'on voit les choses habituellement. Et puis voilà, puis on parle aussi de la façon dont on éduquait les enfants à l'époque, avec les châtiments corporels, tout ça. Et puis moi, ça m'a rappelé esthétiquement des choses comme Jack Clayton, son adaptation du Tour des Crous, Les Innocents, qui tournait aussi autour des enfants un peu maléfiques comme ça et tout. Bah, ça m'a rappelé pas mal de choses en fait. Il y a de très belles scènes, il y a un jeu avec des poupées, une scène de maison de poupées qui est très très efficace. Enfin bon, j'en dirai pas plus, mais Pierrick, je suppose que ça t'a emballé aussi.
Emballer le mot est fort, mais oui, bah, je pense un petit peu comme toi, enfin, d'autant plus qu'il y avait aussi effectivement l'effet du film du matin, donc là on retrouve vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire de très bons acteurs. Dominique West est vraiment très bien, parce qu'il arrive au bout de au départ, ça a été un petit peu difficile, parce que moi j'avais l'image de McNulty dans The Wire, et on oublie assez rapidement ce personnage, et finalement il arrive très bien à incarner ce directeur de lycée, avec un côté très classique. Enfin moi, il m'a fait penser un peu aux acteurs des années 40-50 aux États-Unis, Gregory Peck, enfin je crois que c'est cette période, enfin voilà. Donc voilà, très bien joué, avec un bon scénar là pour le coup, classique, hein, mais au moins voilà, il y a un scénario avec voilà une chute, une idée, il y a une clé, il y a un truc dans le film qu'on va pas révéler pour pas spoiler nos auditeurs, mais bon voilà, il y a une espèce de clé qui fait que du coup on sait pas très bien d'ailleurs s'il y a vraiment une histoire de fantôme, si c'est une clé psychanalytique, enfin on est dans ce genre de choses. Après, ce qui fait qu'effectivement on le suit avec plaisir pour en fait, on suit un petit peu le parcours de l'héroïne, dont on devine certaines fêlures, enfin cette espèce d'obsession de vouloir traquer les charlatans. On devine que en même temps, elle a envie, elle, quelque part, de trouver peut-être autre chose que cette rationalité, qu'elle cherche des choses. Enfin voilà. Donc
oui, parce qu'elle aussi a perdu en fait visiblement, enfin pas visiblement, elle a perdu l'homme qu'elle aimait au combat.
Voilà. Et donc moi, je trouve qu'au début du film, on a l'impression même qu'elle est déçue, que finalement, ce soit toujours du charlatanisme, et qu'elle aimerait bien justement qu'il y ait un au-delà, des fantômes. Enfin. Donc voilà, une femme qui doute, effectivement un beau personnage de femme, donc il y a ce scénario qui va dévoiler des choses progressivement et qui est plutôt bien fait, hein. Moi j'ai vraiment trouvé ça, parce qu'il y a quelque chose des choses qu'on devine, et puis finalement ça va plus loin que ce qu'on pensait. Après, est-ce qu'on le reverrait en connaissant maintenant le truc? Moi je pense pas, enfin voilà, je l'ai vu une fois, je l'ai découvert, j'ai eu la surprise, bon voilà, je pense que ça restera là. À côté de ça, alors bon, effectivement, il y a tout ce côté, voilà, il y a vraiment une atmosphère qui est très travaillée, avec ces personnages un petit peu qui sont à la fois des clichés, mais qui arrivent à exister sur le grand écran, quoi. C'est-à-dire la gouvernante un petit peu étrange, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, le
jardinier.
Ouais, voilà, le jardinier qu'on devine un petit peu
un petit peu taré, quoi.
Un petit peu tordu. voilà, le proviseur, voilà, pareil aussi, des blessures du passé. Enfin, c'est un petit peu ce côté un peu gothique victorien, je trouve, qui est plutôt bien. Et effectivement, il y a aussi une utilisation, tu parlais de la maison de poupée, qui revient comme un motif dans le film, quoi, une figure récurrente, c'est ces petites poupées qui font un petit peu, qui renvoient à ce qui se passe vraiment dans la vie des personnages, quoi, qui représentent vraiment les personnages. Donc ça, vraiment, c'est plutôt pas mal.
Ouais, puis il y a aussi un côté où, en fait, cette femme, elle franchit le miroir, elle franchit le Rubicon. C'est-à-dire, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles. Elle a d'ailleurs ce lapin, qui est une copie conforme du lapin, en fait, d'Alice au Pays des Merveilles, qu'elle remonte et qui lui chante une comptine.
Bah, ce que je veux dire, il y a aussi l'usage de la comptine. Enfin, vraiment, on retrouve... Ça joue sur des ressorts très classiques, avec, comme tu dis, très bien réalisé. Et, bon, c'était... très agréable à suivre.
C'est un film qui brillera pas par son originalité, mais qui brille par sa facture classique. Si ceux qui aiment les films de maison hantée assez classiques, donc effectivement, il y a ce côté, je voulais dire, un peu Alice au Pays des Merveilles, parce qu'à un moment, elle tombe à l'eau. Bon, on révélera pas dans quelles circonstances et tout ça, mais une fois qu'elle a franchi, en fait, ce miroir, en fait, qu'est l'eau, quoi, quand elle en ressort après, justement, c'est là que tout se bouleverse, tout se dérègle, et qu'on découvre que cette femme forte, parce que c'est une femme forte, elle fait pas du tout transparaître ses émotions dans la première partie du film, est en fait une femme pleine de fêlures, et puis qu'elle a effectivement un lourd passif. Puis il y a un final ambigu aussi, enfin légèrement ambigu, enfin qui laisse le doute dans l'esprit du spectateur, qui est plutôt bien amené, qui est plutôt bien troussé, et donc enfin moi je trouve que globalement en termes de film de maison hantée, c'est un très bon film de maison hantée.
Enfin, pour revenir sur le final, moi je pense, et c'est un peu la marque que tu faisais aussi, voilà, c'est qu'il y avait moyen de s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes avant la fin, et ça faisait aussi ça finissait très bien le film. On sent quand même qu'il a un peu du mal à se terminer, ou à trouver, comme s'il y avait 3-4 chutes possibles, et puis finalement allez, on va tous les faire en cascade. Bon, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon voilà,
c'est le principe du film à twist, hein, comme on disait tout à l'heure. Bon voilà, bon je pense que peut-être le réalisateur s'est dit, genre, je vais pas mettre un twist final, je vais en mettre plusieurs, enfin je vais essayer de susciter encore de l'intérêt jusqu'au bout pour mon film. Mais je pense que si effectivement le film durait 1h30, on serait pas perdant. Bon, moi après, moi je retiens de ce film donc une réalisation classieuse, et puis une interprétation vraiment à la hauteur, et puis vraiment une révélation. Rebecca Hall, je l'attendais pas du tout à ce niveau de jeu, parce qu'elle porte vraiment le film sur ses épaules.
Ah, elle est magnifique, parce que voilà, justement, on sent vraiment, elle arrive vraiment bien à jouer cette progression de ce que tu disais, c'est cette femme très forte au départ qui détonne complètement dans la société anglaise de cette époque-là, et au fur et à mesure on sent très bien toutes ces fêlures qui apparaissent, mais c'est toujours en sobriété, enfin c'est très très bien fait, quoi.
Ouais, donc belle actrice, donc ouais. The Awakening, enfin donc alias titre français La Maison des Ombres, donc un film qui nous a bien plu, un bon petit film de maison hantée classique.
Miss Cathcart, I'm a history master at a boys' prep school. I was sent to request your help. You are a ghost hunter as well as an author.
You can't hunt what doesn't exist.
We think we have one that does.
We might want ghosts to be true. Doesn't mean they are.
These boys aren't worried about bumps in the night. They are frightened to death.
I know this place, and I don't hold with any ghostly nonsense.
Did any of you see this ghost boy for yourselves?
I did miss. It was on the upper corridor.
Let's see, shall we?
Magnetic field detector.
Those are footprint catchers.
Ghosts have footprints?
No, people pretending to be ghosts do.
I think there's a place on Earth people understand loneliness better than here.
Hello?
Something is causing this.
Why do you keep your eyes closed, Florence? You need to see ghosts more than anyone I've known.
It's the living you want to watch out for, not the dead.
Lock the house.
You've been frightened your whole life, you shut your eyes.
You're all doing this!
And hope that the terror will go away, but it doesn't go away.
Hello? Florence!
Please welcome Mr. Ron Perlman!
Thank you very much.
Grand merci.
It is such a pleasure to be here. I've never had a tribute before, so please.
C'est un vrai plaisir d'être ici. J'ai déjà mis un hommage avant, donc s'il vous plaît.
I have no idea.
J'ai aucune idée.
Vous avez peut-être reconnu hein, la voix caverneuse de Hellboy en personne, c'est-à-dire Ron Perlman qui ce soir le festival rendait hommage et puis qu'on a rencontré plus tôt dans l'après-midi avec lequel nous avons pu échanger. Il y a eu quelques questions de poser. Enfin bon, vous écouterez prochainement cette interview dans notre émission hebdomadaire. En tout cas, une belle rencontre parce qu'en plus, c'est révélé sympathique, pas langue de bois du tout, et puis plutôt drôle et touchant en fait, Ron Perlman. Je sais pas ce que tu en penses de cette rencontre, toi, Pierrick.
Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Et instructif aussi, c'est-à-dire au-delà de. Il y a une rencontre humaine, parce qu'effectivement, le personnage est très drôle. Et instructif parce que voilà, il a quand même des réflexions très intéressantes sur l'Hollywood d'aujourd'hui, la télé, enfin voilà, mais tout ça, les auditeurs pourront le découvrir dans une prochaine émission de Culture Prohibée.
Très bientôt, une fois qu'on aura monté tout ça, enfin bon, voilà, vous allez vous régaler en tout cas. Et puis, on a terminé la journée sur un film assez détonnant, un deuxième film, un film d'Emilio Portes, donc un Mexicain, donc un film mexicain, bien sûr, qui s'appelle Pastorella. Qui part d'un postulat à la Alex de la Iglesia, et on est effectivement dans un film à la Alex de la Iglesia, je dirais sans la maîtrise plastique d'Alex de la Iglesia, mais c'est pas sans rappeler Le Jour de la Bête, la férocité des premiers films du réalisateur de Balada Triste. Alors c'est vraiment une référence qui s'impose, d'ailleurs c'est un pitch qui est très de la Iglesia. C'est une comédie féroce en fait, mais qui est vraiment un film fantastique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnages qui se révèlent avoir des pouvoirs. Il y a des vrais démons dans le film qui apparaissent et tout, c'est assez rigolo. Il y a un démon qui apparaît en running gag et tout, enfin bon, c'est assez étrange. Et en fait, le film raconte l'histoire d'un type qui est flic et qui interprète tous les ans, donc dans la pastorale. Alors la pastorale, c'est donc pastorella en mexicain. C'est en fait une traditionnelle pièce de théâtre qui est donnée tous les ans, qui raconte en fait l'affrontement entre Jésus et le diable, enfin bon voilà, le Saint-Archange, enfin bon, c'est assez rigolo. Il y a Adam et Ève aussi, enfin bon, il y a toute la Bible représentée, mais c'est un truc assez cocasse, c'est une tradition en fait, hein, voilà, c'est une tradition, évidemment au Mexique ça se fait dans pas mal de villages et tout ça, enfin bon, puis là il va y avoir en fait un concours en plus national des pastorelles, et justement ce village va être sélectionné. Mais alors au même moment où donc ça va être la gloire pour ce flic qui interprète tous les ans le rôle du diable, au même moment le curé centenaire de la paroisse, au moment où il est en train de sodomiser une nonne en fait, meurt d'une crise cardiaque juste avant que son âme maléfique s'envole, puisqu'on sait pas ça qu'il est possédé au moment de sa mort. Bon voilà, c'est une des nombreuses singularités de ce film. Et puis donc il est remplacé par un étrange curé assez énorme, en gros une sorte de, comme me disait Pierrick tout à l'heure, une sorte de sosie de Bernard Blier, enfin bon voilà, en mexicain quoi. Et ce type en fait, ben il décide de pas prendre le flic dans le rôle que le flic, c'est sa seule raison de vivre avec sa fille d'ailleurs, ce rôle de diable qui tient tous les ans, il ne pense qu'à ça, il connaît tous les dialogues par cœur, il le joue incroyablement bien, et surtout comme en fait il a des pouvoirs cachés, il est capable de disparaître et apparaître et tout, enfin bon,
il est surtout capable de déplacer des bières par la pensée,
ouais, il est assez génial ce personnage. Et donc voilà, il se fait piquer son rôle par un chauffeur de taxi en fait, qui déteste cordialement quoi, et s'ensuit une sorte de guerre féroce entre eux, mais qui va nous amener à voir des trucs complètement délirants, à savoir des affrontements entre des forces de l'ordre qui pratiquent la GGN régulièrement, vraiment et de véritables diables, le tabassage d'un Père Noël, des personnages déguisés en pastorelle pour la pastorelle déguisée en diable qui vont tous se transformer en démons, comment dire, enfin un diable avec un chauffeur de taxi qui joue Highway to Hell en mexicain dans une prison, enfin il y a plein de moments totalement délirants, voilà, enfin c'est pas vraiment racontable, c'est une sorte de gros délire, c'est pas forcément toujours très bien réalisé, mais en tout cas c'est un gros panard quoi, c'est un film plein de gags qui arrête pas de partir dans tous les sens, c'est un porte-nawak, comme dirait Yannick Daran, c'est un porte-nawak vraiment mais en tout cas vraiment fun quoi, vraiment sympa, et puis idéal pour terminer une journée quoi, après mais même si on en parlera peut-être tout à l'heure, je trouve pour l'instant cette sélection assez étrange en fait, très 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 disparate. Et puis surtout, bah voilà, il n'y a pas vraiment de grands films qui accrochent pour l'instant. Enfin, on n'en est qu'au premier jour, mais on a déjà vu 3 films sur les 8, donc d'où notre inquiétude en fait, quoi. Et puis voilà, mais Femme Pastorale, là, globalement, moi ça m'a bien plu, quoi. Et toi, Pierrick?
Alors, quand j'avais feuilleté le programme de Germain, parce qu'il y a un gros programme qui présente les films avec des photos des films et des photos des réalisateurs, je me suis dit, mais qui c'est donc qui peut poser comme ça avec deux baguettes chinoises, se les mettre dans la bouche et imiter le morse, quoi. Bon, on a la réponse, c'est le réalisateur de Pastorella, forcément. Non, je suis quand même moins emballé par le film que toi, même si effectivement il y a des moments très drôles, j'ai quand même trouvé assez inégal. Enfin, disons, il y a une galerie de personnages savoureux donc, que tu as déjà décrit, il y a aussi le personnage de la sœur qui fume, qui pense à ses vacances, qui est très drôle.
C'est même super sexy, qui fume, qui fait l'amour, qui s'éclate.
Très libéré, voilà, il y a ce personnage de prêtre qui ressemble à Blier, enfin, c'est à un moment, il coffre tous les Mexicains déguisés en diable rouge, il les fout en tôle, donc ils réclament l'enfer de tous les pays, unissez-vous, enfin quelque chose comme
ouais,
ça.
En fait, ils reprennent El Pueblo Unido, Ramas et Aventido, et là ils le reprennent en version Les Diables Unis, jamais ne seront vaincus, c'est très drôle.
Tout ça c'est très drôle, il y a des gars qui font mouche, mais bon, faut aussi dire qu'il y a quand même des baisses de rythme, que voilà, bon, c'est pas non plus.
C'est toujours un peu ce qui guette ce genre de film, c'est-à-dire comme c'est un film basé juste sur les gags, certains tombent à plat, certains sont très réussis, effectivement certaines scènes manquent de rythme alors que d'autres sont assez époustouflantes, quoi. Le final est vraiment très bon, je trouve, mais dans le genre gros délire il est vraiment très bon le final, mais effectivement il y a vraiment des scènes qui tombent à plat, mais malgré tout je trouve que sur l'ensemble le film, en plus il parle de trucs quand même sous l'aspect rigolade qui sont assez graves en fait, parce que les flics ont la main mise, ils ont tous les pouvoirs, ils sont absolument ignobles. Il y a une scène complètement délirante où il a soudoyé un médecin en fait pour pouvoir garder à l'hôpital ce type qui joue le diable à sa place pour que lui puisse reprendre le rôle, je sais pas si vous me suivez bien quoi, et en fait le médecin laisse échapper le type, hein, je fais simple, et dans le pot de vin qu'il avait versé au médecin, le pot de vin était piégé parce qu'il y a tout un équipement, faut dire, le flic qui joue le diable, et le pot de vin est piégé et le type explose en pleine rue comme ça, c'est complètement débile, mais en même temps c'est très drôle, c'est très fun, enfin bon voilà, il y a plein de moments comme ça. Il y a aussi un personnage que j'adore, moi c'est le flic Bourne qui prend les photos sur les scènes de crime, et si on regarde bien, parce que c'est dans le fond de la scène, il prend les photos mais il met l'œil sur l'objectif, c'est l'œil qui a le bandeau en fait dessus quoi, qui a le bandeau de pirate sur l'œil, ça me fait, ce genre de conneries ça me fait rire quoi, voilà, ça me fait délirer.
Le prêtre qui a un langage de chartier aussi, c'est assez drôle.
Oui, non, mais il y a plein de détails comme ça, Amielde, ouais, sans arrêt, quoi. Et puis bon, et le fameux, je crois que c'est l'assistant, enfin je sais plus, moi je connais pas très bien les grades dans l'église, hein, c'est un peu comme l'armée, je m'y connais pas trop. Mais bon, il y a le numéro 2 du clergé local qui arrête pas de dire t'as vu la Vierge, c'est complètement con, mais ça me fait beaucoup rire, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, enfin moi, Pastorella, en fait, quand même un bon moment, parce que j'en attendais pas grand chose, et j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Il y a eu des moments où j'ai moins ri, mais j'ai quand même passé un très bon moment.
Ouais, une farce délirante, mais moi, la question que je me pose, c'est, pour moi, ça n'a rien à faire dans la sélection, quoi.
Bah, ça reste un film fantastique, quoi. Bon, après,
c'est pas un thriller, un film fantastique, enfin, c'est un bien grand mot, quoi.
Ouais, il y a quand même un type qui a des pouvoirs télékinésiques.
Oui, ouais, enfin, est-ce que ça suffit
à faire un film ? Il y a un démon qui revient en running gag dans le film.
Est-ce que ça suffit à faire un film fantastique ? Enfin, moi, je suis pas sûr.
Non, mais je crois que c'est
je trouve vraiment pas vraiment à sa place dans la compétition.
Bah, je crois que c'est dans un souci de. L'année dernière, il y avait Trollhunter un peu, hein, qui faisait qui était plus fantastique, hein, bien sûr, hein, parce qu'en plus, il proposait des trucs intéressants au niveau effets spéciaux. Même si moi, je trouve que c'est un film vachement surestimé, mais bon. Mais il y avait quand même Trollhunter qui faisait un peu. rôle de film trublion, de film rigolo, quoi. Et je pense qu'il y a toujours un film un peu rigolo, et Pastorella, cette année, ce sera le film rigolo satirique de ce festival.
Il faut espérer quand même que ce soit seul. Hein.
Esta Navidad, las tradiciones están por cambiar.
Yo siempre salgo del primero diablo de Satanás.
Satanás.
Tú a mí no me vas a venir a enseñar cómo es el diablo.
Oh, pero padre.
Padre ni qué padre, ya te lo dije, Chucho. Si quieres salir en mi pastorela, vas a tener que hacerla de pastorcito.
Cuando un ángel sea expulsado,
órele, padre. ¿Quién es ese pinche Chucho?
Y el diablo ande suelto.
Dígales a los del concurso que ahorita llego, que estoy bien.
¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!
Con que una pastorela. Qué bonito. Hace años que no veo una.
¿Qué tranza, Godínez? No se te puede confiar a nada.
¿Pues qué querías, Juárez? Ese güey está muy cabrón. No por nada se cargó al subprocurador.
Ya valiste madre.
Se desatará el infierno.
¡Ya!
El mal rondará las calles.
Ingreso sobre objetivo 1, objetivo 3 comprometido.
Disparen 10-9. Proteja el objetivo.
Que lo disculpe, que está muy ocupado, que va a salir de viaje, que si gusta venir la próxima semana o después de Navidad, con gusto le va a atender.
Ah, ¿qué piden, señorita?
Prepárense para la gran batalla del bien contra el mal.
Muy macho, ¿no? A ver, quítese la sotana.
Pues va, de caballeros, cómo no. Vámonos, ¿sí? Vámonos para afuera, pinche puto.
Me pido.
Próxima Navidad en su arbolito más cercano.
Aunque me querías chingar, ¿verdad?
No, espérate, Chucho. Eso era una pastorela.
¡Toma tu pastorela!
Pastorela.
C'est le premier film que vous voyez de la compétition ?
Non, on est là depuis le début, donc je les ai tous vus depuis le début.
Et alors celui de ce soir ?
Alors celui de ce soir était vraiment pas mal. C'était rigolo, avec plein de clins d'œil à plein de films. Beaucoup d'humour, très décalé. Donc c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on peut voir.
Et sur les autres films ?
Les autres films. Celui de ce matin, Beast, un peu particulier aussi. Étrange. Bon, pourquoi pas. Celui de cet après-midi, en début d'après-midi, pas mal. Il ressemble un peu, ça m'a fait penser un peu à l'Orphelinat dans le même style un peu.
D'accord. Et lequel est votre préférence alors pour l'instant ?
Pour l'instant ? Moi j'ai bien aimé celui de ce matin, bien qu'il soit étrange, c'était un peu noir, très psychologique, j'ai bien aimé.
Et vous venez d'habitude ? Enfin c'est la première fois que vous venez ou...
Non, ça fait plusieurs années.
Et vous ne trouvez pas la compétition un peu bizarre jusqu'ici sur ces trois
films ?
Jusqu'ici
ça change de l'année dernière, exactement, tout à fait. C'est vraiment des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est sûr que ça change par rapport à l'année dernière.
Ouais, dernière question, est-ce que vous croyez aux fantômes alors ?
Bonne question. À voir, j'en ai pas croisé jusqu'à présent, mais pourquoi pas.
Ok, merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Donc après cet intermède mexicain, réjouissant tout de même, n'est-ce pas Pierrick, hein, on va un peu vous parler des films en compétition demain qu'on va voir. Alors, hors compétition, moi je vais me faire un petit plaisir, je vais aller voir le documentaire sur Corman que je voulais voir depuis super longtemps. Corman World's Exploit of Hollywood River, qui paraît-il est excellent, hein, 90 minutes sur toute la carrière de Corman. Mais sinon, demain, il y a quand même deux films et
tu peux juste rapidement présenter Roger Corman quand même pour peut-être les auditeurs
connaissent
pas
Corman,
tous.
Roger Corman, une légende, Roger Corman. Alors oui, c'est vrai, Roger Corman. Qui est Roger Corman ? Alors, Roger Corman, c'est...
dis-nous, Jérôme. C'est qui ?
Voilà. Alors, je vais essayer de faire court. Roger Corman commence à travailler pour l'AIP, c'est-à-dire l'American International Pictures, qui est la boîte fondée par Samuel Z. Darkoff et James H. Nicholson.
T'es mal parti pour faire court.
Non, mais si, on va faire court. Qui est le papa de Jack Nicholson, c'est pour ça que je le dis, voilà, c'est pour l'anecdote. Ça explique aussi que Jack Nicholson jouait dans les premiers films de Corman. Et puis après, Corman, il montre à sa boîte, s'appelle New World Pictures. Et c'est Corman quand même qui découvre, parce que c'est une formidable école, en fait, l'école Corman. Et qui découvre donc Scorsese avec son premier film qui était sur le syndicalisme, là, avec Carradine, dont je ne me rappellerai pas le titre, puisque... Quand on essaye de retrouver quelque chose, on ne se rappelle jamais. Il a lancé Coppola avec Demencia 13. Il a lancé Joe Dante avec Piranha, James Cameron avec Piranha 2, c'est moins bien, mais bon. Enfin bref, il a découvert à peu près tous les talents qui ont ensuite fait carrière à Hollywood. Et parce que c'était une excellente école, hein, c'est-à-dire qu'avec des bouts de ficelle, on faisait des films qui tenaient la route. Et puis surtout, Corman, c'est aussi, il est surtout célèbre aussi pour avoir été surtout un très grand réalisateur. Enfin, pour être un très grand réalisateur, même s'il ne tourne plus. En particulier sa série d'adaptation d'Edgar Allan Poe qui est absolument sublime.
D'ailleurs c'est marrant parce que dans le Coppola qui passait hier, il y avait un petit clin d'œil à ça, puisque il y a un personnage d'Edgar Allan Poe qui apparaît dans le film Twixt de Francis Ford Coppola.
Yes, interprété par Ben Chaplin. Et donc il y avait cette série d'adaptation d'Edgar Allan Poe, avec en particulier quelques sommets comme Le Masque de la Mort Rouge ou La Tombe de Ligeia, qui sont aujourd'hui restés des classiques dans l'histoire du cinéma et qui sont vénérés de Mad Movies à l'écran fantastique en passant par les cahiers du cinéma jusqu'à Positif. O'Corman, c'est le type qui fait l'unanimité. Puis après, il y a tout plein d'autres films. Il y a The Intruder sur la ségrégation aux États-Unis. Il y a plein de choses dans la carrière de Corman, La Petite Boutique des Horreurs. Il y a énormément de choses. C'est un réalisateur passionnant et c'est aussi un personnage passionnant. Et puis c'est tout un pan de l'histoire du cinéma américain.
Sinon, on va aller voir des films en compétition quand même aussi demain.
Bah, j'y compte bien. Il fallait pas me demander qui c'était Corman en même temps. Demain il va y avoir déjà un film allemand post-apocalyptique qui s'appelle Elle, Enfer. Donc c'est réalisé par un jeune homme, puisqu'il est né en 82, qui s'appelle Tim Felbaum, qui a déjà réalisé des documentaires, mais qui n'a pas réalisé de long métrage jusqu'ici, qui est donc un long métrage post-apocalyptique dans un monde dévasté. La survie, comment ça s'organise. La photo dans le catalogue est très chouette. Ça donne un aperçu plutôt intéressant. Maintenant, on attend de voir. Hier, j'étais plutôt en attente de voir Beast. Bon, alors c'est pour ça, j'ose pas trop. Et puis après, il y a un film, une coproduction franco-espagnole, mais enfin, les Français ont pas dû mettre beaucoup de sous parce que toute l'équipe technique est espagnole, le réalisateur est espagnol, les acteurs sont espagnols, enfin bref. Et donc, c'est un film qui s'appelle Eva. Et c'est une histoire, en fait, d'Alex, donc ingénieur de renom, qui est rappelé par la faculté de robotique après 10 ans d'absence pour créer le premier robot libre, un enfant Android. Donc voilà le postulat de départ, on en a parlé un peu dans l'émission d'hier, qui enthousiasme pas mal notre équipe. Un postulat SF Dickien, plutôt intéressant, et on a envie de voir ça. Donc c'est un film de Kike Mayo, hein. Et c'est je crois également un premier film, puisqu'il a surtout fait des clips et puis des pubs. Donc on attend de voir ça avec impatience. Le cinéma fantastique espagnol ne nous ayant plus donné de très grands films depuis quand même quelques temps, même si ça reste toujours un cinéma intéressant. Donc on attend de voir ce film avec impatience, avant de découvrir dans les jours suivants des films qui, à mon avis, devraient un peu plus nous faire triper, je pense. Voilà, en attendant demain, en attendant, on l'espère mieux, hein, de la programmation à venir. Demain, tout cela, et bien plus encore dans votre émission préférée. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par les équipes des films de la Gorgone. Pour plus d'infos, www.lesfilmsdelagorgone.fr, ou bien rendez-vous sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. L'émission était animée aujourd'hui et préparée par votre serviteur, animée par Pierrick Guenec, dit le Yeti breton. Donc par votre serviteur Jérôme dit la Gorgone, et puis à la technique, l'ami Léo Magnin, comme d'habitude, fidèle au poste. Salut les gens, à demain.